Il est 9h30 à Paris, à l'écoute des RFI, une heure de moins à Tunis. L'actualité africaine avec Simon Bourtembourg et à la une, Simon, la dernière ligne droite en Tunisie à 6 jours de l'élection présidentielle.
Et le président sortant Kais Saied, ultra favori, qui ne quitte que très peu le palais de Carthage. Seuls 2 candidats ont été autorisés à se présenter face au chef d'État qui brigue un deuxième mandat. Au Sénégal, les listes pour les élections législatives anticipées sont constituées. Il n'y a finalement pas eu de report. Le délai initial a été appliqué. Il a expiré à minuit ce dimanche. Il était à Lomé dans le cadre des activités du Parlement de la CDAO auquel il appartient. Le député sénégalais Guy Marius Sagna a été agressé lors d'une réunion lors de la plateforme togolaise Dynamique pour la majorité du peuple. Et puis, cette découverte archéologique à faire pâlir l'Égypte. C'est au Maroc qu'a été trouvé le plus ancien complexe agricole jamais identifié en Afrique en dehors de la vallée du Nil. La Tunisie a une semaine du scrutin présidentiel. Les Tunisiens votent donc dimanche pour élire leur chef d'État. Seulement 2 candidats ont été autorisés à se présenter face au président Kais Saied. Après s'être arrogé tous les pouvoirs, le président tunisien ne va que très peu à la rencontre de son peuple pour présenter sa vision pour un nouveau mandat. À la place de Kais Saied, ce sont ses sympathisants qui occupent l'espace laissé libre. Reportage signé Amira Soulimène.
Smartphone et portrait de Kais Saied en main, une 30aine de militants s'avancent sur la corniche de Bizerte. Tous sont des militants du mouvement dit du 25 juillet, en référence à la date de la prise des pleins pouvoirs par Kais Saied en 2021. Mahmoud Ben Mabrouk, secrétaire général, est venu spécialement de Tunis pour les motiver à convaincre le maximum de personnes à voter pour le président sortant.
Le président de la République est un grand défenseur de la souveraineté nationale. Ce n'est pas de la flagornerie que de dire que l'histoire et les générations à venir retiendront les réalisations de Kais Saied.
Il y a ce matin-là des enseignants, des retraités, des commerçants. À ce jour, à part un court manifeste, Kais Saied n'a pas présenté de programme. Perçu comme un homme intègre par une partie de la population tunisienne qui respecte sa carrière d'ancien assistant de droit, Kais Saied dispose encore d'un capital confiance non négligeable. Kamel Chetouen, avocat en tout cas, affiche sa sérénité.
Le but maintenant, c'est de reconstruire l'État avec des personnes qui soient patriotes, des personnes qui aiment leur pays et qui pensent de façon positive pour bâtir l'avenir de leurs enfants.
Avec un rival emprisonné et un autre qui l'a très longtemps soutenu, Kais Saied, qui sort très peu du palais de Carthage, semble parti pour y rester encore quelques temps. Amira Sulem, de retour de Bizerte, à la vie.
C'était l'une des promesses électorales de Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal a entamé une vaste revue des contrats et accords signés avec des partenaires étrangers. Depuis bientôt un mois, un comité s'attelle à vérifier que les engagements et les obligations de la loi sénégalaise sont respectés. Il va falloir revenir à une plus grande équité et à un plus grand équilibre contractuel, a prévenu le président sénégalais. Toujours au Sénégal, une étape importante en vue des élections législatives anticipée du 17 novembre prochain. La clôture du dépôt des listes électorales, elle n'a donc finalement pas été reportée. C'est le délai initial qui a été appliqué. Il a donc expiré à minuit ce dimanche. Un rétropédalage de dernière minute, alors que samedi, la prolongation de ce délai de dépôt des listes avait été actée au terme d'une concertation avec l'opposition et la société civile. Plusieurs candidats qui espéraient un report ont donc été pris de court. Correspondance à Dakar de Birahim Touré.
On est dessus, honnêtement, il faut le dire. On ne pensait pas ça du ministère de l'Intérieur.
La déception, le mot est lâché par Mamadou Diarra, mandataire de l'Union Natal Kaougui, une coalition de paysans, agriculteurs et éleveurs. À l'instar de plusieurs autres représentants de candidats, il est pris de court.
Ça va impacter sur notre électorat, ça va impacter sur pas mal de choses. Voilà, donc on n'a pas vu en étant négociant.
Frustration, mais pas de surprise pour Dado Ndoye, du directoire de campagne de la coalition Doundou.
Nous sommes coutumiers et habitués à ces faits. Finalement, nous sommes préparés et nous savons qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires, tant qu'il n'y a pas peut-être un arrêté du ministre, rien ne peut se faire et l'histoire nous a donné raison.
L'ancien député et journaliste Pape Diourilfa, lui, ne cache pas sa colère contre le régime.
De toute évidence, on constate malheureusement que le respect de la parole donnée ne fait pas partie de leurs principes du tout. Une rupture du dialogue, d'ailleurs, qui n'a jamais été enclenchée avec la classe politique depuis l'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye. Et cela, aujourd'hui, a comme conséquence un ministre qui dit une chose aujourd'hui et se dédie le lendemain citoyens.
Dans un communiqué, plusieurs membres de la société civile se disent préoccupés par le rejet du consensus obtenu au terme d'efforts collectifs avec les autorités publiques et appellent toutes les parties prenantes à poursuivre le processus électoral dans un esprit serein. Après la clôture des dépôts de dossiers hier, la liste des candidats retenus pour les législatives sera publiée dans 8 jours au plus tard, avant le démarrage de la campagne électorale prévue le 27 octobre. Biraïm Touré, Dakar, RFI.
Au Gabon, les craintes du gouvernement qui évoque le foisonnement de discours visant à semer le trouble dans la préparation et le déroulement des élections. Le ministère gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité met en garde tous ceux qui voudraient perturber la bonne tenue des scrutins prévus pour mettre fin à la transition politique entamée depuis le coup d'État du 30 août 2023. Un nouveau drame sur les routes en Guinée. Au moins 12 personnes sont mortes hier dans un accident de la circulation dans le centre-ouest du pays. Le minibus en provenance de Tougué est tombé sous un pont dans le fleuve sénécolais. 18 personnes ont été blessées. Elles ont été prises en charge. Selon les premiers éléments de l'enquête, certains passagers, dont des enfants, sont morts noyés. La lutte pour la démocratie continue. Voilà les mots du député sénégalais Guy Marius Sagna, seulement quelques heures après son agression à Lomé hier lors de la session délocalisée du Parlement de la CDAO auquel il appartient. La réunion publique était organisée avec la plateforme d'opposition togolaise Dynamique pour la majorité du peuple. Mais la rencontre a donc tourné court parce que des intrus s'en sont pris violemment au député sénégalais qui a été blessé et transporté dans une clinique de la capitale togolaise. Il a plus tard dans la journée appelé, je cite, la CDAO à ne pas tourner le regard face à la situation politique au Togo.
C'est très inquiétant que l'État togolais agisse ainsi alors que la CEDEAO est sur la terre africaine du Togo. Et donc je comprends aujourd'hui plus que jamais que le peuple frère du Togo, dans sa lutte pour la démocratie, a besoin du soutien de tout le monde, du soutien de la CEDEAO. La CEDEAO ne doit plus continuer à tourner le regard et à faire la politique de l'autruche par rapport à ce qui se passe au Togo. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux, ces méthodes-là. Et au moment où il le faisait, vous avez vu, la gendarmerie était là. Je dénonce énergiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas parce que ça s'est abattu sur moi, mais parce que je me dis, si l'État du Togo est capable de faire cela, alors que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO a une session ici, qu'est-ce qui se passe alors quand la CEDEAO n'est pas présente? Que vivent les braves femmes et les braves hommes du Togo quand ils sont entre Togolais? C'est ça la question que je me pose et je suis très inquiet.
Le député sénégalais Guy Marius Sagna. Le cri d'alerte en République démocratique du Congo des proches de Seth Kikuni après le transfert ce samedi de l'opposant à la prison centrale de Makala. L'ancien candidat à la présidentielle était jusqu'alors détenu depuis plus de 4 semaines à l'Agence nationale des renseignements. Une détention qualifiée d'arbitraire par ses avocats qui rejettent les accusations d'incitation à la désobéissance civile et diffusion de faux bruits. C'est par ailleurs l'état de santé de Seth Kikuni qui inquiète le camp de l'opposant, lui qui a subi une opération chirurgicale juste avant d'être arrêté. Nathanaël Onokomba est porte-parole du parti Piste pour l'émergence, la formation politique de Seth Kikumbi.
Le président Seth Kikuni n'a pas pris contact avec ses avocats depuis les deux qu'il a été arrêté jusqu'à passer plus de 11 jours dans un lieu non connu par qui que ce soit. C'est après cela qu'on lui a présenté devant le parquet, tout justement pour formaliser l'arbitraire orchestré par le régime en place. C'est inadmissible pour des faits qui sont bénins de séquestrer quelqu'un ou de détenir quelqu'un pendant plus de 11 jours ou 12 jours sans contact avec sa femme. Et là, il a subi des traitements inhumains, et puis là, il est malade, sa santé dégrade, et aucune loi de la République, ni la procédure pénale, qui donne la capacité au service national de renseignement de détenir quelqu'un sans contact avec ses avocats. C'est ce qui nous choque un peu. On lui reproche d'avoir tenu des propos qui sont de faux bruits selon eux, tout simplement parce qu'il a dit que le pays va mal parce que les détourneurs sont en train de détourner l'argent de la République. Ça démontre à suffisance que Tshisekedi ne veut simplement pas écouter une autre voix qui s'oppose à sa gouvernance.
À des propos recueillis au micro de Christina Okello, toujours en RDC, dans un rapport publié ce lundi, Médecins Sans Frontières tire la sonnette d'alarme. L'ONG annonce avoir soigné plus de 25 000 victimes de violences sexuelles l'année dernière, soit plus de 2 personnes par heure. À présent, nous parlons de l'archéologie marocaine. un peu plus sur le devant de la scène, une discipline en plein essor dans le pays du Maghreb, et ce depuis la découverte en 2017 du plus ancien fossile d'Homo sapiens. Cette fois, des archéologues ont mis au jour le plus vaste et le plus ancien complexe agricole jamais identifié en Afrique et en dehors de la vallée du Nil. Les explications avec Mathias Reynal.
Village agricole du néolithique, Wetbet est une fenêtre sur le passé de cette région. Le site archéologique témoigne du degré de complexité qu'elle avait atteint à l'époque. L'archéologue Youssef Bogbot fait partie de l'équipe internationale et multidisciplinaire de recherche à qui l'on doit cette découverte.
C'est un site qui a livré des milliers d'ouvrages polis, des dizaines de centaines de meules qui ont servi à moudre le grain et surtout la céramique peinte, donc d'une qualité, d'une finesse extraordinaire avec un décor polychrome jamais découvert en Afrique du Nord.
Un site de 10 hectares, une superficie colossale pour l'époque où une société humaine encore inconnue a laissé des traces.
À côté de ça, puisqu'il s'agit d'une société agricole qui a pratiqué l'agriculture intensive, il y a des centaines, sinon des milliers de silos pour emmagasiner les graines.
Cette découverte confirme le rôle crucial joué par le Maghreb dans l'évolution des sociétés en Méditerranée et en Afrique du Nord.
La portée de ces découvertes, bien sûr, vont au-delà des frontières marocaines. On a des connexions, des contacts très rapprochés, très réguliers avec la péninsule ibérique. À cette époque-là, il y avait déjà un commerce établi.
Les résultats de ces recherches ont été publiés cet été dans la revue Antiquity. L'article est en accès libre. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
Une enveloppe de 480 millions d'euros injectée dans le secteur de l'énergie. Voilà le fruit d'un accord signé à Washington entre la Sierra Leone et les États-Unis. Un investissement qui devra permettre l'accès généralisé à l'électricité et ce dans les nombreuses villes où ce n'est pas encore le cas, et également dans des communautés rurales qui ne sont pas raccordées au réseau principal. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite d'RFI Matin, c'est avec vous, Nathalie.
Merci Simon Bourtembourg et bonne journée. Et dans cette dernière partie des